sur efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La maladie d'Alzheimer concerne de plus en plus de monde, les patients bien sûr, mais aussi leur entourage, car après une installation silencieuse, les troubles peuvent s'accumuler, allant de la confusion à la désorientation, avant d'altérer parfois le langage, l'humeur et affecter l'autonomie. Le facteur de risque évident, c'est l'âge. La fréquence d'Alzheimer augmente avec les années pour concerner une personne sur trois après 85 ans. Et avec le vieillissement de la population, eh bien le nombre de malades devrait doublé d'ici au moins 20 ans. La maladie d'Alzheimer est la forme de démence la plus fréquente au monde et si l'on ne dispose toujours pas de traitement pour bloquer cette lente dégénérescence des neurones, la connaissance de ces mécanismes a en revanche, elle, beaucoup progressé. Ces avancées visent avant tout à ralentir la survenue des troubles cognitifs et pour cela, eh bien, la prévention s'appuie sur des stratégies, des bonnes habitudes à adopter, des gestes simples du quotidien à privilégier et on va le voir. Le cerveau est plein de ressources, à condition de ne jamais cesser de le stimuler et de cultiver chaque jour sa curiosité. Et pour garder ce cerveau en pleine forme, des stratégies, des rituels dont on va parler avec vous, professeur Philippe Amouyel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de santé publique au Centre Hospitalier Universitaire de Lille, directeur de la fondation Plan Alzheimer et vous avez signé le livre Le Guide anti-Alzheimer aux éditions du Cherche Midi. En deuxième partie d'émission, nous serons en ligne avec la République démocratique du Congo avec le professeur Célestin Kapoutou, neuropsychiatre à Kinshasa. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur les journées de la schizophrénie avec Fabienne Blin du collectif Schizophrénie au pluriel. Vos questions, vos témoignages, le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75. Professeur Philippe Amouyel, vous êtes aussi coordonnateur de l'initiative internationale de recherche sur les maladies neurodégénératives. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, si oui ou non, la maladie d'Alzheimer est mieux diagnostiquée?
Alors, la maladie d'Alzheimer est mieux diagnostiquée parce qu'on en parle de plus en plus. Néanmoins, on reste quand même chez certains praticiens et avec, dans certaines situations, confrontés à la question de, finalement, c'est le vieillissement, c'est l'âge qui explique tout ça. Et on s'est rendu compte qu'en voyant augmenter l'espérance de vie des populations, des gens vivaient très longtemps avec des fonctions intellectuelles préservées jusqu'à la fin de leur vie. Donc si certains peuvent vivre comme ça, ça veut dire que les autres ont probablement quelque chose qui relève de la maladie.
S'il y avait certains retards, est-ce que c'est du fait, en fait, des personnes, des patients qui disent « je vieillis, je suis peut-être un petit peu plus lent, un petit peu ralenti » ou est-ce que c'est les médecins qui n'étaient pas à l'époque capables de déceler ces signes?
Alors c'est un petit peu des deux, mais il faut savoir qu'au début, il y a ce qu'on appelle une phase de déni. On a toujours l'habitude de minimiser le phénomène qui nous arrive. Tiens, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Ah ben c'est normal, j'étais stressé. Alors c'est vrai, un certain nombre de choses sont liées à l'attention, à la fatigue, à votre état d'esprit. Mais quand les choses se répètent trop souvent, et surtout le point critique, c'est quand elles gênent votre vie en société, à ce moment-là, on ressent soit le besoin d'en parler à sa famille, d'en parler à son médecin, et c'est à partir de là que commence une étape où on va, dans tous les cas, essayer d'abord d'éliminer le diagnostic. Et quand on n'aura pas d'autre solution, on finira par le poser.
Et cette fameuse prise de conscience, elle est davantage du fait de l'entourage ou davantage du fait du sujet?
La plupart du temps, c'est l'entourage qui est alerté, qui s'alerte et qui est étonné de l'espèce de neutralité, de déni dans lequel est le sujet.
Alors en France, la maladie d'Alzheimer affecte 900 000 personnes, ce sont les chiffres officiels. 10 hommes pour 15 femmes. À quoi est due cette différence, professeur Amouyel?
Alors, on parle beaucoup des différences hommes-femmes. Alors, en tant qu'épidémiologiste, là, il faut que je fasse une remarque. C'est que quand on regarde, on compare les hommes et les femmes, toutes choses étant égales par ailleurs, la seule chose qui fait la différence à ce moment-là dans cette maladie, c'est l'espérance de vie. Et une femme vivant en moyenne 6 à 7 ans de plus qu'un homme, elle aura plus de chances de tomber malade qu'un homme.
C'est statistique, tout simplement.
Ne serait-ce que cet effet-là et peut expliquer cette différence.
Alors, pour décrire la maladie, professeur Philippe Amouyel, en des termes simples aux auditeurs, c'est une démence qui altère quelle partie du cerveau ?
Alors, c'est une évolution progressive qui se produit. Elle commence au cœur du cerveau, si on peut dire, dans une petite zone qu'on appelle l'hippocampe, parce qu'elle a la forme du petit animal marin, et progressivement, suivant des mécanismes qu'on n'arrive pas bien à expliquer pour l'instant, elle s'étend dans une direction qui est en général toujours la même et qui va finir par toucher le cortex, c'est-à-dire ce qui nous sert à penser et à fonctionner. En sachant que l'hippocampe, c'est l'endroit où se concentrent tous les éléments qui vont nous servir à mémoriser, rappeler nos souvenirs et en fait fonctionner, puisqu'on a besoin de sa mémoire pour fonctionner au quotidien.
Un petit peu notre disque dur. Quelles compétences sont affectées ? Est-ce qu'il y a en fait une chronologie classique ou est-ce que c'est vraiment propre à chaque individu ?
Alors, la chronologie des symptômes, la progression des symptômes est en général assez classique. En revanche, on distingue 3 à 4 grands types de symptômes. Les troubles de mémoire, c'est les plus classiques. On a un autre type de trouble qu'on appelle les troubles des fonctions dites exécutives. C'est-à-dire, vous faites une tâche sans le savoir. Par exemple, vous avez un micro-ondes, vous savez très bien vous en servir. Puis un beau jour, vous arrivez dans le micro-ondes, vous savez que c'est un micro-ondes, vous savez que ça sert à manger. Impossible de le mettre en marche.
Est-ce qu'on peut dire qu'on désapprend ?
Alors,
est-ce que le lendemain, on sera capable de refaire ce même geste qu'on a appris la veille ?
C'est une très bonne question. Et ce que l'on voit, c'est que dans les essais de prévention, justement, que l'on a, que lorsqu'on force les apprentissages, on obtient, au moins dans les premiers stades, des phénomènes de rétention de mémoire. Ça permet de fonctionner. Mais sans stimulation, sans rien, et puis avec un peu l'abandon et le déni qu'il y a autour de l'utilisation de ces objets, finalement, petit à petit, on se retire de toutes ces activités.
Alors, on voit bien qu'il y a une sorte de phase de latence, hein, maladie insidieuse. Professeur Philippe Amouyel, on le comprend bien en lisant votre livre. Les lésions se forment silencieusement. Et quand, en fait, le diagnostic est posé, la maladie, en fait, est installée déjà de longue date.
Oui, on estime aujourd'hui, ça c'est les travaux vraiment des dernières découvertes, des 10 dernières années, c'est que lorsque quelqu'un est diagnostiqué atteint de maladie d'Alzheimer, pourquoi ? Parce qu'il a présenté des symptômes, ça signifie la plupart du temps que le cerveau a épuisé toutes ses ressources de résistance à la maladie. Et cette maladie, on pense aujourd'hui, a commencé 10, 20, voire 30 ans avant, tout doucement, progressivement. Et c'est justement l'intérêt de cette phase-là qui nous interpelle en se disant, voilà, ben c'est le moment où on va pouvoir, pendant toutes ces années, essayer de repousser les limites de résistance du cerveau et finalement de prévenir la maladie.
Parce que stimuler ses ressources, ça veut dire qu'en fait, ça s'adresse à tout le monde, puisque personne ne peut savoir à l'avance s'il sera atteint ou pas. Il y a des facteurs héréditaires, mais c'est quand même pour une minorité. Ça veut dire qu'en fait, ces conseils anti-Alzheimer, ils concernent absolument tout le monde.
Alors, ils concernent absolument tout le monde pour deux raisons. Comme vous l'avez dit, il y a une part individuelle de susceptibilité, mais elle n'est pas toujours dans le même sens. On peut lutter contre. C'est ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Les mécanismes de prévention marchent souvent de manière un petit peu plus efficace chez les gens qui ont ce problème de terrain. Et puis, le deuxième problème, c'est que finalement, avec le temps, on va pouvoir repousser de plus en plus ces premiers symptômes. Et pour les repousser le plus longtemps possible, en se disant même que finalement, comme à cet âge-là, on a malheureusement le risque de mourir d'autre chose, on puisse partir avant d'avoir développé la maladie qui finalement, on ne l'aura pas faite.
Oui, mais en fait, si on développe toutes ces stratégies, c'est pour une raison très simple, hein, professeur Philippe Amouyel, qu'on doit rappeler, même si elle est terrible, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de traitement curatif.
Oui, alors en fait, ça c'est la grande question. Les chercheurs du monde entier cherchent de nouveaux traitements. Malheureusement, jusqu'à présent, tous les essais qu'on a faits sont revenus négatifs en matière de traitement et d'arrêt complet de la maladie. Ce qu'on cherche à faire également aujourd'hui, c'est repousser ces symptômes. Alors, on va finir par trouver, c'est une question de temps, ça prend plus de temps que prévu parce que le cerveau est un organe complexe, ça demande beaucoup de travail et puis on a une maladie qui s'étend sur plusieurs années. Quand vous traitez une grippe, ça va durer 5-10 jours avec 20 jours d'incubation, le temps de la grippe. Là, c'est une maladie, quand on va la traiter, il va falloir commencer à regarder ça 5, 10, 20 ans. Donc les temps de développement sont beaucoup plus longs.
Alors, vous restez avec nous parce qu'on va justement parler de toute cette stratégie de prévention, professeur Philippe Amouyel, mais tout de suite, on va écouter un témoignage. Témoignage recueilli par Tout Neuf Mendy, c'est celui d'une femme, Martine, elle a 70 ans, son époux Gérard est lui âgé de 67 ans, ils souffrent d'Alzheimer, leur vie à deux est complètement bouleversée par la maladie et tous les matins, ils commencent ensemble la journée avec le rituel du petit déjeuner.
T'as pas pris ton cachet encore ? celui que tu m'as donné tout à l'heure.
Si tu l'as pris.
Les autres, ils sont là.
Bon, ben allez, on va s'installer alors. C'est gentil de m'avoir mis le bol, mais ce serait bien d'avoir le café dedans. Tu n'oublieras pas de les cacher.
Oui, ils sont là.
Mais tu les prends avec de l'eau, hein, pas avec ton thé.
J'y vais.
Où?
Eh ben, à côté, là.
Où, à côté? Prendre ta douche tout de suite.
Ouais. Mmh. Non.
Oui. Là, il est dans la salle de bain et je pense qu'il ne sait pas où est son gant. Et c'est sa serviette, tout ça, il ne sait plus, je suis sûre. Au démarrage, c'est surtout qu'il oubliait pas mal de choses. Il a deux fois perdu ses papiers. Un jour, il est parti, il a acheté, je sais pas trop quoi. Il se souvenait pas le numéro de carte bleue. Il m'a appelé, donc je lui ai donné le numéro de carte bleue sans me méfier. Et au lieu de passer sa carte bleue, il a donné son numéro de carte bleue au vendeur. Et je me suis rendu compte qu'il supportait plus non plus les gens. Il voulait plus aller nulle part, il voulait rester à la maison. Moi, j'ai deux petits-enfants qu'on avait très souvent à la maison en vacances. Et il était très, très proche de la petite fille. Et la dernière année, donc ses 4 ans de vacances, là, il la supportait plus. Il fallait pas qu'elle fasse de bruit, il fallait pas qu'elle bouge à table. Bon, à l'époque, elle avait 9 ans. Donc, le dernier jour, on est ensemble, elle vient toujours dormir avec moi. Et ce soir-là, il a fait une comédie, il a jamais voulu. Il l'a attrapée, il l'a balancée sur son lit. Oh, et ça m'a affolée, parce que jamais, jamais il avait fait ça. Sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il pète un plomb, il est plus... Comme en fait, il était en retraite depuis 3 ans, il n'avait plus trop d'occupation. Donc je me suis dit, bon, c'est parce qu'il est plus occupé avec son travail, peut-être que ça lui manque. Parce qu'il avait un travail très prenant, très directif. Et quand on est rentré de vacances, je me suis rendu compte que... Ici, c'était pareil. Il oubliait plein de choses. On disait, bon, par exemple, demain matin, tiens, on va aller à Paris. Le lendemain matin, il se levait, il s'habillait pas, il prenait pas sa douche. Ben, je lui dis, attends, on va à Paris. Ah bon? Non, tu me l'as pas dit. Alors ça, c'était son leitmotiv. Au fur et à mesure, je me suis inquiétée. Donc, derrière son dos, j'ai téléphoné à son docteur et je lui expliquais. Et dans les examens, elle lui a fait faire en plus un électroencéphalogramme. Et là, quand on a eu les résultats, elle m'a dit il y a un petit problème au niveau du cerveau. Mais le diagnostic Alzheimer, on l'a su en février, 3-4 mois après. Ce jour-là, c'est vrai que je me suis sentie anéantie. Et je ne voulais pas trop lui faire voir, parce que lui, par contre, ça ne l'a pas perturbé du tout.
Comment organisez-vous votre quotidien dans l'accompagnement de votre mari ?
C'est un petit peu régulier, c'est-à-dire le matin on se lève, je lui laisse préparer le petit déjeuner parce que je voudrais qu'il continue à faire des choses. Après, alors ça dépend des jours parce que le mercredi il a orthophoniste l'après-midi, donc le matin, le mercredi matin on va au marché, donc il vient avec moi au marché. Après on rentre, je débarrasse les cours, je prépare le repas. Quand il fait beau, je le force, donc on marche tous les après-midi. Le quotidien, c'est ce qui est très difficile, c'est qu'il faut que je surveille tout. Vous voyez, il va à la douche, j'ai pas mis de post-it pour dire c'est ton savon, c'est moi qui fais tout. Les 2-3 fois où j'ai essayé de le laisser faire des choses, il fait pas. Donc si je fais pas, il fait pas.
Est-ce que vous faites aussi appel à des professionnels pour vous aider ?
Non, jusque-là, je veux pas, j'ai pas besoin. Sur les conseils d'accompagnement d'Alzheimer, par exemple, on m'a dit qu'il fallait absolument qu'il ait une journée ailleurs qu'avec moi. Donc j'ai réussi à lui faire accepter une journée d'accompagnement. C'est un endroit où l'association France Alzheimer a des places et des interventions. Donc tous les mardis matins, il est dans un accompagnement avec d'autres personnes.
Aujourd'hui, comment va votre mari ? Il en est où ?
Ça a beaucoup évolué depuis 3 mois, là, depuis novembre-décembre. Par exemple, il ne sait plus allumer la télévision. Il feuillette le journal programme, mais il ne sait plus quel jour on est. Physiquement, il y a eu un moment où il avait des comportements un peu excessifs. Donc le docteur était obligé de lui donner des calmants. Et depuis qu'il a les calmants, ça va. Concrètement, c'est que je suis très fatiguée. Je suis jamais tranquille, je suis jamais décontractée. Et là, pendant 3 mois, j'étais très mal, donc mon docteur m'a donné des médicaments pour me décontracter, mais après j'ai arrêté. Parce que je veux pas tomber là-dedans, il faut que moi je sois solide. Psychologiquement, je me dis que ma vie est fichue, quoi. Parce qu'on n'a plus de vie déjà tous les deux. J'ai plus de temps à donner à ma vie sociale. C'est pas évident, parce qu'au début, évidemment, on s'y attend pas. On voyageait beaucoup, on faisait du bateau, on avait vraiment une vie sociale. Et puis, entre nous, ma plus grande peur, c'est, oui, justement, le jour où il ne nous reconnaîtra plus. Ou... En fait, j'essaye d'éliminer ça et de vivre au quotidien, ben, au jour le jour, ce qu'on peut vivre.
Alors, des propos recueillis par Tout Neuf Mendy, professeur Philippe Amouyel, on sent la détresse de cette épouse devenue accompagnante. Cette maladie, forcément, elle concerne beaucoup de monde, car l'impact est énorme sur l'entourage, sur la famille, avec, on l'entend, une forme d'épuisement, véritablement.
Oui, c'est ce qu'on observe très souvent. Il y a la phase de désespoir à partir du moment du diagnostic, mais suivant le stade du patient, on peut récupérer, prendre certaines habitudes, prendre différents points, et de toute façon, quand même, il y aura la nécessité de suivre en permanence. Alors, il existe des aides professionnelles qui viennent aider, qui donnent des petites bouffées d'oxygène, car souvent, probablement comme chez cette personne que nous venons d'entendre, il y a un épuisement qui va apparaître. Un épuisement qui va d'ailleurs pas faciliter non plus la relation avec le patient. Donc, il est important qu'il y ait des temps de répit qui soient accordés et que surtout les gens ne se culpabilisent pas de ces répits. C'est-à-dire qu'ils n'abandonnent pas leurs patients. Ils vont être dans de bonnes mains, dans des gens qui ont des professionnels qui ont l'habitude de prendre en charge ces patients. Ils les récupéreront et amélioreront ainsi leur relation. Mais c'est très difficile.
Alors, il y a un mot qui vous a fait réagir au début du témoignage. C'est celui de retraite, professeur Philippe Amouyel. On l'entend, la maladie qui arrive 3 ans après le début de la retraite, moment de la vie très particulier. Vous en parlez longuement dans votre livre. Pourquoi cet écho, justement, entre la retraite et la maladie d'Alzheimer ?
Quand vous travaillez, vous avez une stimulation intellectuelle permanente, du bon stress, parfois du mauvais stress. Vous avez également des relations. Alors, c'est pas des relations amicales, mais vous échangez énormément avec vos individus. Vous avez une programmation dans le temps de vos journées. Quand vous prenez votre retraite, du jour au lendemain, tout ça disparaît. Ou s'atténue de manière absolument énorme. On a des études aujourd'hui qui montrent que plus un pays a l'habitude de prendre sa retraite tôt, plus ses performances cognitives sont basses. Les meilleurs là-dedans, c'est les Suisses et les Suédois. On n'est pas très bon avec les Espagnols et les Italiens, nous, dans ce secteur. Il y a une étude qui a été faite en France il y a maintenant 7-8 ans sur les bénéficiaires du RSI. On en parle beaucoup, justement, en ce moment. 450 000 personnes dont on a regardé l'âge de début de la maladie. Ceux qui partent un an plus tard réduisent leur risque de 3% par année. Ça veut dire que si vous partez à 60 ans au lieu de partir à, par exemple, 65 ans, vous augmentez de près de 15% votre risque.
Mais finalement, professeur Philippe Amouyel, l'important, c'est pas de partir tard, mais c'est d'avoir une retraite active, occupée et stimulante.
Exactement. Mais pour avoir une retraite active, occupée et stimulante, il faut la préparer bien avant son départ à la retraite. Et c'est ça que on a toujours tendance à repousser les mauvaises choses. On procrastine, on les repousse en fonction du temps. Et c'est ça qu'il faut préparer, c'est ça qui est important.
Alors, dans votre livre, vous développez toute une série de rituels pour freiner les symptômes, pour ralentir la survenue de la maladie. Est-ce qu'on peut parler pour autant, professeur Philippe Amouyel, de compensation ?
Alors, ce n'est pas des compensations, c'est de la résistance. Et ce qui est important, c'est de le faire un petit peu tous les jours. C'est le principe du rituel. La prévention, c'est une question, c'est quelque chose qui se joue dans la durée, dans la régularité. Ce n'est pas parce que vous allez vous mettre au régime pendant l'été qu'après, ça ira mieux. Il faut changer très progressivement. Il faut commencer par les choses que l'on aime. Ça ne sert à rien de faire des choses que vous n'aimez pas. Vous ne les ferez pas, au bout du compte. Ben, commencez déjà par celle-là et vous verrez comment tout ça, très progressivement et grâce à la plasticité de votre cerveau, vous vous les approprierez et ça deviendra des habitudes qui vous aideront à résister à cette maladie.
Alors justement, on va feuilleter ce guide très pratique. Des exercices, des tests, des fiches, des conseils. Toutes ces activités qui enrichissent le capital cerveau. Et justement, comme il y en a beaucoup, de très nombreuses, et bien on peut choisir parmi ce qu'on aime. On va en reparler dans 3 minutes, vous restez avec nous. On va se retrouver juste après les informations, toujours pour parler des rituels anti-Alzheimer. Et si vous voulez, si vous avez des questions, et bien vous pouvez nous appeler. Le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 1 84 22 75 75. On se retrouve dans 3 minutes.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé. On continue de parler de la maladie d'Alzheimer avec le professeur Philippe Amouyel, professeur de santé publique au Centre Hospitalier Universitaire de Lille, directeur de la Fondation Plan Alzheimer. Dans votre livre, professeur Philippe Amouyel, le guide anti-Alzheimer publié aux éditions du Cherche Midi, vous soulignez justement toute une série de conseils. Vous citez ces conseils diététique, de nutrition anti-Alzheimer. Tout à l'heure, on va reparler des activités que vous préconisez pour ralentir la survenue de la maladie. Mais d'abord, ces conseils diététiques, sur quoi reposent-ils exactement?
Alors, il y a beaucoup de conseils pour maintenir son cerveau en pleine forme. Il y a beaucoup d'articles, de publications là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des validations cliniques et scientifiques. Et aujourd'hui, ce qui domine dans cette littérature, c'est essentiellement un type de régime et d'alimentation, qui est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, qu'on appelle aussi régime crétois suivant les situations, et en fait qui est caractérisé par un certain nombre d'éléments, notamment la consommation d'huile d'olive, qui est quand même l'élément le mis en avant, mais également diminution des viandes grasses, consommation de volaille, du poisson deux fois par semaine, et également associé à une certaine qualité alimentaire, par exemple des repas à heure régulière. Pas de grignotage entre les repas, éviter tout ce qui est boissons et produits transformés. Beaucoup de produits naturels, essentiellement parce que cette alimentation qui est née dans le bassin méditerranéen, avec le temps que l'on retrouve là-bas, permet justement d'avoir accès toute l'année à des produits relativement frais ou des produits non transformés. C'est quand même ça l'essentiel. Et derrière tout ça, il y a tout un tas de produits et de facteurs dont on parle très souvent, qu'on isole, à tort d'ailleurs, qui sont ce qu'on appelle les antioxydants, les oméga-3. Alors, on les isole pour mieux les prescrire sous forme de comprimés, de gélules, de compléments alimentaires qui, jusqu'à présent, sur la maladie et sur les symptômes, hors situation particulière de carence, n'ont jamais fait la preuve de leur efficacité.
Vous pointez aussi certains aliments. D'ailleurs, vous allez à l'encontre d'idées reçues. Une idée reçue qui a justement, faute de validation officielle, circulé, c'était que boire un verre de vin, c'était très bon pour le cerveau. Et ça, vous dites, c'est pas forcément vrai du tout.
Alors ça, c'est des hypothèses qui ont été faites depuis quelques années. Mais on s'est rendu compte qu'on avait fait une petite erreur quand on mesurait ça. Quand je demande à quelqu'un « Est-ce que vous buvez ?», il me répond « Oui, non ». C'est au moment où vous discutez la plupart du temps. Mais les gens ne boivent pas, soit parce qu'ils n'ont jamais bu, soit parce qu'ils ont dû s'arrêter de boire à un moment de leur vie, souvent pour des raisons médicales. Et donc, vous mettez dans le même groupe des gens qui ne boivent jamais et des gens qui ont arrêté de boire pour raisons médicales et qui sont forcément plus fragiles que les autres. Et donc, vous avez cette impression que ceux qui boivent un petit peu, qui ne sont pas dans ce groupe-là, qui ne sont pas encore malades, vont mieux que ceux qui ne boivent pas du tout. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe pour le cancer, qu'on observe pour les maladies cardiovasculaires et également pour les maladies neurodégénératives. Alors, ça fait partie de notre culture, c'est tout à fait d'accord. Donc il faut savoir le consommer, en boire avec modération, mais essayer d'en boire le moins possible.
Alors quelque chose que vous conseillez de boire, mais là aussi avec modération, c'est plutôt bon pour le cerveau, professeur Philippe Amouyel, c'est tout simplement le café.
Oui, le café est un stimulant, on le sait, ça nous réveille, ça nous stimule. Vous faites faire des tests de fonction intellectuelle à des gens avant ou après un café, ils vont être plus performants après leur café. Et on estime environ que 3 tasses de café par jour suffisent à maintenir cette forme intellectuelle.
Alors des sports aussi, des sports à conseiller et des sports à éviter. Par exemple, tout ce qui peut provoquer un micro-traumatisme crânien, par exemple, c'est quoi ces sports justement un petit peu traumatisants?
Alors le cerveau, c'est quelque chose de fragile, il faut le protéger. Alors certes, on a des os, une boîte crânienne, mais les chocs répétés, le fait qu'il n'est pas fixé dans cette boîte crânienne, entraîne des petits traumatismes qui vont à la longue. Alors, vous n'allez pas avoir de problème sur le coup, peut-être une petite commotion, une petite douleur de tête, mais la réparation va être difficile. Et l'exemple type, on a découvert ça, alors c'est des gros traumatismes, c'est les joueurs de football américains qui développent plus de maladies d'Alzheimer que le reste de la population.
Malgré le casque.
Malgré le casque et en fonction de la violence. Et il y a des études qui sont en cours actuellement, en particulier sur les joueurs de football. Alors, notre football européen, le soccer, qui joue avec la tête. Ceux qui marquent de magnifiques buts avec la tête, quand on voit la dureté d'un ballon et la violence du tir, semblerait également développer plus de maladies neurodégénératives. Mais tout ce qui va vous entraîner, c'est micro-traumatisme. Donc, il est important de protéger sa tête et de mettre des casques quand on fait ce genre de sport.
Sans aller jusqu'au coup de tête de Zidane, quand même. Alors, il y a d'autres gestes beaucoup plus anodins. On n'y pense pas forcément. Moi, j'étais surprise en lisant dans votre livre. C'est l'éternuement à vie à la population. Il ne faut pas se retenir d'éternuer. Pourquoi?
Quand vous éternuez, vous projetez votre respiration et les gouttelettes qu'il y a dedans à 50 km/h. D'accord ? Imaginez stopper une voiture avec la main droite à 50 km/h. Ben, c'est ce que vous faites quand vous fermez votre bouche pour être très poli et éviter de déranger les autres. La seule personne que vous dérangez réellement, c'est vous. Donc, alors, il ne s'agit pas non plus de hurler et d'éclabousser tout le monde, mais en fait, de ne pas le retenir, de le laisser partir, éventuellement de s'excuser après.
Même chose pour l'atout.
Même chose pour l'atout, là encore.
C'est le même processus.
Exactement, c'est le même processus.
Alors, on parlait justement tout à l'heure de ce facteur d'âge, hein, avec, on peut le dire, une explosion des chiffres après l'âge de 80 ans. On parlait du facteur héréditaire. Est-ce que les personnes qui, dans leur famille, ont quelqu'un atteint de la maladie d'Alzheimer, professeur Philippe Amouyel, ont davantage à s'inquiéter que les autres ?
Alors, je pense que tout le monde a à s'inquiéter parce que, pour savoir qu'on a des parents atteints de maladie d'Alzheimer, il faut qu'ils aient vécu suffisamment longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Alors, les générations de jeunes qui sont nés au cours de ce siècle vont avoir cette vision, puisque nous vivons tous de plus en plus longtemps. Donc, on ne sait pas si on a eu des parents ou pas. On ne sait que si, heureusement, ils ont survécu. C'est le deuxième point dont on s'est rendu compte, c'est que ce ne sont pas des facteurs héréditaires où on l'entend habituellement. C'est-à-dire, vous avez une maladie auquel est associé un gène, vous avez des mutations dans gène, vous tombez malade. Là, non, là, c'est ce qu'on appelle une susceptibilité. Vous avez des susceptibilités à faire des rhumes parce que votre système immunitaire marche moins bien. C'est la même chose. Vous pouvez compenser ce risque. Et bien, c'est la même chose pour la maladie d'Alzheimer et pour la susceptibilité qu'elle représente.
On parle des facteurs environnementaux. Tout à l'heure, sur l'alimentation, vous disiez qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été prouvées au niveau de tests, validées justement par des expérimentations scientifiques. Est-ce que là aussi, tout ce qui est facteurs environnementaux, on a beaucoup entendu parler, je suis pas là pour citer des rumeurs, mais quand même de l'aluminium sur la maladie d'Alzheimer. Sur quoi reposent ces doutes et est-ce que c'est validé ?
Alors, il y a les rumeurs sur l'aluminium et il y a les études sur l'aluminium. De nombreuses études ont été faites qui sont restées, pour la plupart d'entre elles, soit incohérentes, c'est-à-dire certaines études montrent que c'est un facteur de risque, d'autres que non, d'autres que ça protégeait, ou alors avec des effets extrêmement faibles. Donc l'impression qu'il y avait eu à un moment, c'est que les eaux qui étaient un petit peu plus riches en aluminium étaient associées à une augmentation de risque infime de maladie d'Alzheimer, alors que celles qui étaient riches en silice diminuaient. Donc tout ça a alimenté les rumeurs, puisqu'on entend, et puis sur la question des vaccins, sur la question des déodorants, mais à ce jour, compte tenu de cette utilisation, il n'y a pas d'éléments associés à une pathologie donnée par rapport à l'utilisation de l'aluminium tel qu'on l'utilise dans notre vie quotidienne aujourd'hui. En effet, il y a bien des années, lorsqu'on avait des systèmes de filtres en aluminium de mauvaise qualité, étaient associés des troubles du comportement, des troubles des fonctions intellectuelles, mais ce problème a été repéré. Aujourd'hui, la filtration de l'eau se fait dans des conditions qui évitent tous ces déversements d'aluminium importants. Or, aujourd'hui, aux doses où c'est utilisé, pour l'instant, on n'a pas montré quoi que ce soit.
Alors, pour revenir à ce diagnostic, professeur Philippe Amouyel, quel rôle joue l'imagerie cérébrale dans l'évaluation de la maladie ?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que, comme je vous le disais au départ, la maladie, elle démarre bien avant que les symptômes apparaissent. Donc, aujourd'hui, on a des moyens de voir indirectement cette progression, en particulier avec l'imagerie cérébrale. Alors, l'imagerie la plus simple, c'est l'imagerie morphologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IRM, et on voit certaines structures qui réduisent de taille. L'hippocampe dont on parlait au début, cette petite structure qui, au niveau de la, qui est importante pour la mémoire, a tendance à se réduire chez les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on stimule ou qu'on entraîne des mesures de prévention, elle peut reprendre du volume. Et ça, c'est important par rapport à notre réflexion là-dessus. L'autre outil que l'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'imagerie par émission de positons. Un nom compliqué pour dire que on va vous injecter un petit produit radioactif qui va aller se coller sur les lésions de la maladie d'Alzheimer, qu'on ne voit normalement qu'après votre décès, mais que là, on va pouvoir voir de votre vivant. Donc, améliorer la précision, et ces lésions peuvent apparaître bien avant l'apparition de la maladie. Donc, ça nous permettra, le jour où on aura des traitements validés, de pouvoir traiter le plus tôt possible.
Alors, vous restez avec nous, professeur Philippe Amouyel. On va partir tout de suite pour Kinshasa.
Priorité santé sur RFI.
La République démocratique du Congo, on retrouve en ligne donc le professeur Célestin Kapoutou. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour les auditeurs de RFI.
Vous êtes neuropsychiatre, neuropédiatre au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. Est-ce que les Congolais connaissent bien, professeur Kapoutou, cette maladie d'Alzheimer ?
Bon, les Congolais en général, donc un citoyen lambda, ne connaîtrait pas la maladie d'Alzheimer. Donc, la maladie est bien connue dans les milieux de neuropsychiatres et éventuellement quelques personnes qui sont beaucoup plus curieux. Mais dans la population générale, c'est quand même assez compliqué parce que cela se confond à beaucoup de situations qu'on connaît dans le monde subsaharien.
Alors, est-ce que les généralistes, vous avez parlé du milieu médical, est-ce que les généralistes, eux, sont formés spécifiquement sur cette maladie pour reconnaître les signes lorsqu'ils sont présents, professeur Caputou ?
Spécifiquement, non, mais ça fait partie d'un cursus de leur formation parce que le cours de neurologie, de maladies neurodégénératives, ça fait bien partie de la formation de médecins généralistes congolais. Alors, j'estime bien, généralement, les malades qui nous arrivent dans des milieux spécialisés, je dis le Centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa, sont pour la plupart envoyés par ce médecin-là pour carrément un syndrome démentiel. Alors, c'est nous, spécialistes, qui cherchons de démêler le faux du vrai pour savoir si ce sont des démences qui sont dues, qui sont plus ou moins, entre guillemets, curable ou c'est souvent la maladie d'Alzheimer.
Professeur Philippe Amouyel tout à l'heure disait il y a la technologie, l'IRM par exemple, qui permet d'observer ces anomalies cérébrales. On sait que en Afrique subsaharienne, ces équipements sont rarement, exceptionnellement, voire carrément pas présents. Alors sur quelle base vous pouvez poser le diagnostic ?
Oui, vous avez dit le diagnostic le diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est un diagnostic de probabilité qui est fait du vivant du malade. Et nous avons, comme vous l'avez dit, à réunir, il doit y avoir une concordance des arguments pour que la probabilité de maladie soit plus élevée. Donc, on ne peut pas se passer de la résonance magnétique pour poser ce diagnostic. Nous avons bien sûr au moins 4 ou 5 machines de résonance magnétique à Kinshasa. Et ça coûte autour de 450-500 $, donc 350 €. Et c'est quand même très élevé. Donc, vous comprenez qu'on est loin du compte. Donc, généralement, nous rabattons pour la plupart des cas à poser ce diagnostic sur le profil de troubles cognitifs. Et souvent, ça reste un diagnostic des hypothèses. Parce que ça demande suffisamment de moyens pour avoir le diagnostic de certitude.
Une dernière question, professeur Célestin Caputou. On entendait tout à l'heure le rôle primordial de l'entourage du malade lorsque le diagnostic est posé. Est-ce que justement vous communiquez avec cette famille pour leur dire quelles bonnes attitudes adopter ?
Oui, ça au moins nous avons, je crois, un avantage sur le public européen. Parce que nos malades, nous avons ce qu'il faut éviter dans la prise en charge, c'est un retrait social. Or, nos vieux, entre guillemets, nos vieilles personnes sont souvent entourées, sont presque des embryons extra-utérins, sont entourés de leurs membres de famille, de petits-fils, et souvent ils sont stimulés sur le plan sensoriel et ils restent à communiquer. Je pense que cela joue un rôle, disons, un bon rôle dans le fait que des maladies n'évoluent pas rapidement. Contrairement à chez vous, je pense qu'ici, nous avons cette capacité-là sociale de voir le malade entouré et cela leur évite un retrait social qui est délétère pour l'évolution de la maladie.
Merci infiniment, professeur Célestin Caputou. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre, neuropédiatre au centre neuropsychopathologique de l'Université de Kinshasa. On vous retrouve, professeur Philippe Amouyel. Le professeur Caputou l'a très bien résumé. L'isolement, c'est très mauvais. Le lien social, c'est primordial.
Oui, il y a un impact culturel important et en Afrique en particulier, et même dans d'autres populations comme en Asie, ce respect qu'on a pour la personne âgée, le fait de l'entourer, aide énormément à maintenir la personne avec de bonnes fonctions.
Vous parliez tout à l'heure du régime crétois, c'est ce qu'on retrouve aussi dans certaines régions de la Méditerranée où plusieurs générations cohabitent et on est ensemble quoi qu'il arrive.
Le régime crétois, c'est pas que l'alimentation, c'est la façon dont on mange.
C'est la qualité de vie.
C'est la qualité de vie, c'est le fait de avoir des repas ensemble, à durée régulière, c'est éventuellement de faire une petite sieste après un repas. C'est tous ces éléments qui vont créer ce contexte favorable pour essayer de résister à cette maladie.
Dans votre livre, vous donnez des pistes, ce qu'il faut faire. Il y a un mot qui revient très souvent, et je ne vais pas vous contredire là-dessus, c'est le livre. Le livre, c'est vraiment un allié essentiel pour lutter contre, pour prévenir la maladie.
Tout à fait. Alors vous pouvez faire des mots croisés pour faire plein de choses, mais la simple lecture, la lecture régulière, approfondie de textes, alors que ce soit sur du papier, que ce soit sur des supports électroniques, est l'élément qui stimule le plus votre cerveau. Quand vous lisez, vous stimulez votre langage, vous stimulez votre imagination, vous stimulez votre mémoire. Et quand en plus, vous avez la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies, Internet en particulier, ça va vous apprendre à raisonner autrement et avoir des raisonnements complexes et avoir justement une utilisation maximum de votre cerveau, finalement dans des conditions assez simples à réunir.
Vous parlez d'Internet, vous distinguez bien deux formes d'écran, hein. On va dire l'écran intelligent, et puis sans dénigrer aucun média concurrent. L'autre écran, c'est la télévision. Là, ce n'est pas forcément bon pour justement la gymnastique du cerveau, professeur Amouyel.
Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas rester passif. Si vous regardez une télévision, que vous restez passif en regardant des séries toute la journée, là vous allez avoir un problème. En plus, ça va vous couper de votre vie sociale, ça va diminuer votre activité physique. Si vous utilisez ça de manière on va dire intelligente, c'est-à-dire active, en essayant de chercher des choses, de retrouver des éléments, en analysant, ça peut être des programmes relativement simples, mais c'est cette espèce de fascination qu'on a lorsqu'on est passif devant une télé qui fait que notre cerveau à ce moment-là ne travaille plus.
Tout à l'heure, vous parliez de ces zones de répit à mettre en avant pour des personnes par exemple dans l'entourage qui sont à bout, et aussi parce que c'est un espace strictement adapté à la personne malade. Professeur Philippe Amouyel, est-ce que ces zones de répit aujourd'hui sont bien réparties, suffisamment accessibles?
Oui, et c'était un des résultats. En France, on a eu la chance d'avoir des plans de lutte contre la maladie, et le fait d'avoir ces plans a permis d'organiser au niveau national certaines actions. Par exemple, sur les diagnostics, on a aujourd'hui un réseau absolument fantastique que toute l'Europe et les États-Unis envient de centres mémoire, qui sont des gens spécialisés. Vous avez un trouble des fonctions intellectuelles, votre médecin peut vous référer là et on va, au bout d'un certain temps, vous poser un diagnostic.
On trouve quel type de professionnels dans ces centres mémoire?
Des médecins, la plupart du temps des neurologues, mais également des neuropsychologues qui vont également intervenir dans la phase du diagnostic. De la même manière, dans le plan de 2008 à 2012, on a mis en place ce qu'on appelle les structures de répit. On les a développées pour permettre aux gens de déposer une journée, de déposer un ou deux jours la personne de son entourage qui est atteinte. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux gens de se reposer. Le témoignage qu'on a eu montrait la pression permanente, nuit et jour, qu'il y a à s'occuper de cette personne. On peut la supporter, mais au bout d'un certain temps, on s'épuise. Et on a besoin de se reposer et de faire confiance à des professionnels qui ont l'habitude de prendre ces gens en charge et donc d'accéder à ces structures de répit.
On a entendu ces derniers mois, ces dernières semaines, toute la polémique sur la situation dans ce qu'on appelle trivialement les maisons de retraite. Est-ce que justement la maladie d'Alzheimer a véritablement sa place dans ce genre de structure? Est-ce que les personnels là sont formés? Parce que c'est vraiment un défi au quotidien pour les personnels.
Alors il y a deux choses par rapport aux maisons de retraite. Le premier, c'est la formation, certes, mais c'est surtout le nombre de personnes dans ces maisons de retraite et le nombre de personnes en face du nombre de soignants ou d'aidants dans ces maisons de retraite. Ça reste quand même ça le problème principal. Si vous prenez d'autres exemples en Hollande ou ailleurs, vous avez des lieux où on a cet entourage et généralement les choses se passent un peu mieux. Mais tout cela a un coût et tout ça doit être réfléchi et il faut qu'on y pense maintenant. Parce que ce problème, on l'aura de plus en plus. On a pris énormément de mesures vis-à-vis de l'enfance qui ont donné d'excellents résultats en France pour tout un tas de raisons, sur la natalité, le développement économique, la croissance. Je pense qu'il faut qu'on parte de ce principe maintenant qu'il va falloir s'occuper de la personne âgée comme on s'en est occupé de l'enfance, en mettant en place des structures sociales et des éléments. On va devoir faire face à cette, entre guillemets, ce qu'on appelle épidémie de troubles des fonctions intellectuelles.
Alors on a dit pour l'instant pas de médicaments, hein, professeur Philippe Amouyel, on a beaucoup parlé de la prévention. Malgré tout, on peut s'intéresser de ce qui se passe du côté de la recherche, du côté des pistes. Qu'est-ce que c'est justement ces pistes pertinentes côté traitement, quel espoir pour les patients, pour l'entourage?
Alors aujourd'hui,
ou pour aussi les vieux que nous allons devenir.
Aujourd'hui, il y a des pistes que l'on connaît, qui ont 10 à 15 ans à peu près, qu'on travaille encore puisqu'il faut faire des essais qui durent extrêmement longtemps. Ça consiste à cibler certaines lésions que l'on observe chez les patients atteints pour essayer de les éliminer. Et on les élimine par des mécanismes qui ressemblent un peu à la vaccination, c'est qu'on stimule l'immunité du corps pour qu'il les élimine lui-même. Ça, c'est les principaux groupes d'essais qui, pour l'instant, n'ont pas donné de résultats. On pense aujourd'hui que c'est parce qu'on les donne trop tard. Si on les donne au moment du diagnostic, probablement il n'y aura plus assez de neurones, même si on arrête le système. Par rapport à ça, d'autres hypothèses sont en train d'émerger, en particulier sur le métabolisme. On s'est rendu compte que le métabolisme des lipides ou le diabète était associé à la maladie. Donc on revient à ces notions qu'on évoquait de nutrition et de qualité de vie, mais également d'autres mécanismes immunitaires. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment notre cerveau résiste. Et si on trouve les moyen d'aider à cette résistance, on aura probablement trouvé une partie des traitements et c'est vers là que les pistes vont actuellement.
Merci beaucoup au professeur Philippe Amouyel de nous avoir accompagnés pour décrypter aussi ces rituels anti-Alzheimer. Je rappelle que vous êtes professeur de santé publique au Centre Hospitalier Universitaire de Lille. Je rappelle le titre de votre livre, Le guide anti-Alzheimer, les secrets d'un cerveau en pleine forme, publié aux éditions du Cherche Midi. Merci beaucoup.
Merci.
Priorité santé sur RFI.
On parle des journées de la schizophrénie à présent. Faire connaître cette pathologie mentale, dédramatiser, lutter contre les stigmatisations. Des journées du 17 au 24 mars, c'est la 15e édition. On vous retrouve, Fabienne Blin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente, porte-parole du collectif Schizophrénie. Pour cette édition, le titre de ces journées, c'est « On a tous un côté décalé ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors bon, c'est une manière de dire que la schizophrénie peut toucher à peu près n'importe qui, que c'est une maladie qui induit évidemment certaines difficultés d'intégration, mais qu'au même titre que n'importe qui, les personnes atteintes de schizophrénie peuvent s'intégrer dans la société, qu'elles ne sont pas si différentes qu'on peut le croire, et c'est pour ça que ces journées essayent de mobiliser toutes les associations pour aller au-devant du grand public, pour justement expliquer cette maladie et déstigmatiser les personnes qui en sont atteintes, pour montrer qu'elles peuvent s'intégrer, certaines sont parfaitement d'ailleurs intégrées dans la société, ont une vie de couple, travail, etc. Le problème, c'est qu'elles n'osent pas dire qu'elles sont atteintes de schizophrénie pour justement ne pas être exclues. Et donc, c'est ça qu'on se sert passer, l'idée que les personnes souffrant de schizophrénie sont en fait un peu comme tout le monde et ont toute leur place dans la société.
Malgré tout, il y a ce vrai problème de perception, de représentation. Il y a une étude qui vient tout juste d'être publiée par un laboratoire pharmaceutique. Elle montre à quel point la schizophrénie est mal connue, méconnu, avec toujours qui lui colle à la peau une image de dangerosité, de menace à associer, et d'ailleurs le tout véhiculé par les fictions, par le cinéma, par les médias, il faut le dire, et par une bonne partie de la presse aussi.
Oui, tout à fait. Donc vous faites référence à un sondage Opinion Noël, donc qui est extrêmement intéressant, hein, puisque enfin, l'association Promesse, donc membre du collectif Schizophrénie, a participé à la rédaction des questions donc pour ce sondage. Donc effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que non seulement le grand public méconnaît la maladie, mais on voit que c'est aussi le cas d'un certain nombre de professionnels, ce qui est évidemment encore plus grave. Parce que pour ce qui est de la schizophrénie, c'est pire qu'à d'être une maladie méconnue, c'est une maladie qui est victime de quantité de préjugés. Donc vous parliez de la dangerosité, bon, c'en est un, mais c'est aussi une très mauvaise appréciation de la maladie qui est souvent assimilée à un dédoublement de la personnalité, justement comme vous la rappeliez en raison de deux films très connus en fait qui induisent cette confusion entre schizophrénie et double personnalité.
Comme le film d'Alfred Hitchcock, Psychose, hein, qui a donné un portrait absolument calamiteux d'un malade et qui ne représente en rien ce que peut être un malade schizophrène.
Alors tout à fait, et ce que montre ce sondage Opinion Noël, c'est que justement un certain nombre de troubles, de symptômes de la schizophrénie sont parfaitement méconnus. Donc on pense que c'est un dédoublement de la personnalité, alors que ce n'est pas du tout le cas, mais par contre on ignore les troubles cognitifs, les difficultés d'attention, de concentration que peuvent ressentir un certain nombre de personnes atteintes. Et du coup ça induit des conséquences dramatiques à la fois pour la prévention et pour l'accès aux soins, puisque en fait on a un retard de diagnostic considérable hein, qui est de 5 à 7 ans pour en France pour la schizophrénie, justement parce qu'on ne connaît pas les symptômes et pas seulement le grand public, les familles et les personnes touchées, mais également un certain nombre de professionnels. Et ça induit en fait cette image déplorable des difficultés renforcées, supplémentaires pour les personnes qui sont touchées. Et vous rappeliez en début d'émission à propos de la maladie d'Alzheimer qu'elle touchait 900 000 personnes en France. Donc il faut savoir que la schizophrénie, c'est une maladie qui est pratiquement aussi fréquente, hein, puisque c'est plus de 600 000 personnes en France qui sont touchées. Et que contrairement à la maladie d'Alzheimer, ce sont des jeunes, puisque la maladie se déclare entre 15 et 25 ans, généralement, en moyenne. Donc c'est vraiment extrêmement important pour l'avenir de ces jeunes, de diagnostiquer la maladie au plus tôt et donc de faire connaître les symptômes, les premiers signes et tous les éléments de prise en charge possibles. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait méconnu, c'est que la plupart, enfin, une majorité de personnes atteintes de schizophrénie, les études le montrent, ont une évolution favorable. Ce n'est pas la perception commune.
Alors donc, justement, on a parlé de cette perception négative véhiculée notamment par un certain nombre de supports culturels. Vous, c'est l'inverse, hein, il nous reste moins d'une minute, c'est l'inverse
oui.
que vous développez à travers ces journées. L'art, justement, pour sensibiliser, théâtre, littérature, cinéma, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors oui, bien sûr, donc ces journées de la schizophrénie, elles consistent à aller dans le grand public pour à travers quantité de manifestations. Donc, ça peut être, on est allé au Salon du Livre, justement, présenter des auteurs, ou bien malades eux-mêmes, ou bien soignants, qui parlent de la schizophrénie et des possibilités de rétablissement. Ce soir, il y a à Paris une conférence du docteur Nuss à l'hôpital Saint-Antoine pour parler justement de l'horizon commun des patients, des proches et des soignants en matière de schizophrénie. Demain, à la médiathèque François Sagan, il y aura une conférence cinéma et schizophrénie. Et puis d'autres manifestations, une autre conférence sur
Il faut conclure, Fabienne Blin. Je vous remercie infiniment. En tout cas, tout ça, on peut le retrouver sur notre site. On va mettre le lien avec votre association. Présidente, porte-parole du collectif Schizophrénie. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler des allergies. Si vous voulez poser vos questions, 33 84 22 75 75.
Santé avec Sono Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.